Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Vortas
107 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Vortas 107 FM, bienvenue dans cette émission de Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Salut Virginie.
Bonjour Amérique.
Bonjour Virginie.
Et bonjour Léo.
Bonjour, pas bonjour Léo. Virginie. Non, moi j'ai dit tout, moi j'étais pas prêt.
C'est le comble pour le technicien son. Bon, alors aujourd'hui, on va vous proposer en fait de parler d'un sujet un peu particulier avec des étudiants d'AgroParisTech. On va pas parce que actuellement, on parle beaucoup de renouvellement des forêts dans le monde, en France, en Cévennes, notamment pour faire face aux dérèglements climatiques, pour adapter les essences, pour faire face au dépérissement, et on y associe souvent la technique du reboisement. Et le reboisement, voilà, ça consiste en fait à raser l'existant pour repartir sur une nouvelle forêt. Mais, Margot ?
Mais il existe aussi des techniques qui sont pour le moment un peu moins développées, notamment l'enrichissement. Et c'est ça qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui, donc avec ces étudiants spécialisés en gestion forestière qui sont à Florac depuis maintenant 2 semaines pour travailler sur un projet forestier dans le cadre de leurs études, donc. Et on en profitera aussi pour découvrir un petit peu leur formation forestière. Donc, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et ensuite nous présenter la formation forestière que vous suivez ?
Bonjour, moi c'est Tanguy, je viens du nord de la France, donc je suis un ch'ti.
Bonjour, moi c'est Anouchka, je viens de la Meuse en Lorraine et je suis en apprentissage, en plus d'être à l'école, à l'Office national des forêts à Besançon.
Bonjour, moi c'est Valentin Rougemont, je suis jurassien et je suis apprenti à l'Office national des forêts en Auvergne-en-Alpes.
Et bonjour, moi c'est Romain Charbonnier, je viens de Clermont-Ferrand et je suis élève fonctionnaire, donc c'est un statut un petit peu particulier. En fait, c'est une partie des étudiants qui ont passé un contrat avec l'État et qui, en échange d'une rémunération et d'un poste affecté à la fin des études, s'engagent à travailler pour l'État pendant 8 ans. Voilà.
Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre formation forestière ?
Oui, alors du coup, là, on est 4 étudiants, mais en réalité, notre promotion comporte 23 personnes, enfin 23 étudiants. Donc, on est en dernière année d'études d'ingénieur AgroParisTech. Donc nous, on est dans la dominante gestion forestière, donc qui est située à Nancy. AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs agronomes, agroalimentaires et forestiers. Donc nous, on est spécialisés en forêt. Et on est à Florac dans le cadre d'un projet. Il y a d'autres projets que notre promotion. Notre promo est coupée en 3 projets. Nous, on est le projet dans les Cévennes. On travaille sur un projet en lien avec le CNPF qu'on va détailler un petit peu plus tard. On sera normalement en poste l'année prochaine. C'est notre dernière année d'études.
Vous avez travaillé dans la forêt irrégulière école, on l'appelle comme ça, qui est basée sur le massif du Bougès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ?
Alors, la forêt irrégulière école, c'est une association qui s'occupe de promouvoir la sylviculture irrégulière en forêt. Et là, la forêt irrégulière école du Bougès, c'est un propriétaire privé qui a cette forêt et qui est en association avec cette association pour pouvoir promouvoir les réguliers, et notamment par le biais de placettes permanentes qu'on va vous expliquer, où c'est pour avoir un peu une évolution de comment évolue la forêt et comment évolue la sylviculture pour après pouvoir faire des formations au personnel forestier comme au personnel extérieur pour vraiment expliquer cette sylviculture assez spéciale.
Et du coup, peut-être juste avant de parler des placettes permanentes, est-ce que l'un d'entre vous peut nous expliquer très rapidement ce que c'est la gestion en irrégulier ?
Oui, en forêt, il y a plusieurs façons de gérer une forêt. On distingue, on va dire, 2 grands types de gestion. Il y a le régulier et l'irrégulier. Et le principe de l'irrégulier, c'est d'avoir tout le temps un couvert en fait forestier, donc avoir tout le temps des arbres, et avoir des arbres de différents diamètres, de différentes classes d'âge, de différentes hauteurs, du coup, étant donné qu'ils n'ont pas le même âge. Et ça permet d'avoir des strates multiples pour ce qui peut permettre de maximiser les services de biodiversité, mais aussi d'être généralement perçu comme plus joli par le public. Donc ça a plusieurs avantages, mais bon, ça a aussi des, enfin, il y a aussi tout un des questions à se poser autour de la régénération. C'est pas forcément facile de faire ça avec tous les types de forêts, mais c'est de plus en plus valorisé à l'échelle de la France.
Okay. Donc,
je dirais que c'est une gestion forestière qui imite la nature.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, ouais, elle a plusieurs noms, gestion régulière, sylviculture mixte à couvert continu, sylviculture proche de la nature. Mais ok, merci pour cette précision. Et du coup, comme l'a dit Anouchka, dans cette forêt, vous avez réalisé des remesures de placettes permanentes qui sont, donc, on va dire, gérées par l'association Futaie Irrégulière, qui est une association qui étudie la gestion irrégulière, notamment en suivant techniquement plusieurs peuplements dans différents contextes forestiers en France et en Europe aussi, je crois. Et le suivi, il se fait grâce donc à des remesures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de la placette permanente ?
Oui, d'accord. Alors, les placettes permanentes sont des points géolocalisés en forêt qui sont matérialisés par des fers à béton, mais ils ne sont pas visibles puisque ça ne doit pas influencer le gestionnaire forestier lors de ces martelages. Et donc, sur ces placettes permanentes, on mesure à la fois le diamètre des arbres, la hauteur, leur essence, pour connaître l'accroissement annuel, mais aussi d'autres paramètres tels que les habitats favorables à la biodiversité, le bois mort et la régénération naturelle. Donc l'objectif, c'est de faire un état des lieux de la forêt actuellement, mais aussi de regarder l'impact de la gestion forestière sur le peuplement dans le temps, puisque les remesures sont faites tous les 5 à 10 ans environ.
Merci. Et la deuxième partie de votre travail, ça va porter sur l'étude de la technique de l'enrichissement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme si on avait 5 ans, qu'est-ce que c'est l'enrichissement en sylviculture ?
Alors, l'enrichissement en sylviculture, c'est apporter de nouvelles essences dans des peuplements. Donc, on travaille sur le projet Enrichir avec l'école, donc sur le secteur du sud massif central. Donc, en fait, c'est une zone qui a été très concernée par des reboisements FFN. Donc, le FFN, c'est le Fonds Forestier National, qui a duré plusieurs dizaines d'années à partir des années 50. Et donc, il y a de grandes surfaces qui étaient d'anciens pâturages qui ont été boisés avec une seule essence, donc souvent du pin ou de l'épicéa. Et donc actuellement, avec l'évolution climatique, on voit que ces peuplements sont de plus en plus menacés. Et donc les propriétaires souhaitent tout de même maintenir ces surfaces boisées. Donc cela passe par l'introduction d'essences plus résistantes au changement climatique. Et donc les façons d'y parvenir sont par exemple d'apporter de nouveaux plants à l'intérieur des forêts. Donc ce sont des petits collectifs qui regroupent entre 9 et 15 plants souvent. Et donc ces collectifs sont distribués de façon assez homogène dans les peuplements. Et l'objectif, c'est que si on a une perturbation sur les essences en place adultes, c'est d'avoir de nouvelles essences qui soient déjà en capacité de se régénérer pour couvrir les surfaces qui pourraient être dévastées par des parasites par exemple. Voilà.
Ok, et du coup, pour parler plus spécifiquement du projet, déjà, qui c'est qui vous a mandaté pour travailler sur ce sujet-là et quel est l'objectif général du projet
L'organisme qui nous a mandaté, c'est le CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière, qui nous a mandaté du coup pour 3 semaines, vu que notre projet dure 3 semaines avec l'école et on travaille sur ça. Et l'objectif du projet, c'est de produire un petit document qui explique les différents enrichissements qui ont été faits en Lozère et aux environs, où ça a été réussi ou non, et un peu quelles sont les différentes expérimentations, quelles sont en fait les conclusions, où on peut faire par exemple un enrichissement, où ça fonctionne, où ça fonctionne pas, sous quel contexte, un peu avoir un guide des retours d'expérience et pour pouvoir après aider les gestionnaires à se lancer dans l'enrichissement et avoir un peu plus d'informations, parce qu'actuellement on n'a pas tant de documentation sur cette méthode d'enrichissement. Et après, ce que le CNPS nous a demandé de produire, c'est d'abord d'aller directement sur le terrain voir des expérimentations d'enrichissement et en allant voir la personne, du coup, faire un questionnaire en lui posant vraiment des questions précises pour bien comprendre sa démarche, l'enrichissement qui a été fait, et aussi faire des mesures directement sur le terrain de l'enrichissement au niveau de la lumière, du couvert, des plants. Et après, une fois qu'on a récolté toutes ces données avec les différentes expérimentations, on va faire une synthèse complète de tout ce qu'on a pu sortir, vu, et une synthèse aussi plus synthétique qui, elle, cette synthèse synthétique sera du coup donnée aux propriétaires pour déjà avoir un petit retour d'expérience. Parce que là, le projet, nous, pour nous, il dure 3 semaines, mais pour le CNPF, il dure 1 an. Ils ont à peu près, je crois, jusqu'à août pour rendre le projet. Donc, ils vont s'appuyer sur nos retours d'expérience qu'on a fait sur notre synthèse pour pouvoir le continuer. Et en plus, on va commencer à rédiger le début de la brochure qu'ils vont faire sur le retour d'expérience. D'après ce qu'on aura vu, on fera surtout la rédaction de l'introduction.
Merci. Et du coup, voilà un projet qui paraît bien utile. Et où est-ce que vous en êtes actuellement ?
Alors là, on a fini hier les relevés de terrain. Donc, on est allé une fois dans le Tarn, une fois dans le sud de l'Aveyron, une fois au nord de l'Hérault. On est allé une fois en Lozère, pardon. Et puis on est allé hier, deux fois, pardon, en Lozère. Et la dernière sortie qu'on a fait, c'était hier, donc en Ardèche. Au niveau du terrain, des mesures de terrain et des entretiens avec les gestionnaires, on a tout fait. Maintenant, on va traiter les données pour compiler un petit peu, rassembler toutes les idées qui ont été évoquées en entretien, et puis voir un peu ce qu'il en ressort, et aussi regarder au niveau des données qu'on a récoltées ce qui se dessine globalement pour justement pouvoir commencer la rédaction et la synthèse qu'on doit produire pour le CNPF.
Moi, j'avais une petite question, parce que je crois que vous êtes intervenu sur la forêt école des Bougesses ou pas du tout ?
Ouais. Oui.
De mémoire, moi, j'y avais travaillé de manière très anecdotique pour des inventaires bryologiques donc de mousse, tout au début de la mise en place de cette forêt école. Et j'avais souvenir que c'était des forêts très denses et très monotones, hein, de pins laricio, c'est bien ça ?
Oui.
Et je me suis demandé, voilà, typiquement, parce que c'est une essence qui est très très présente en Cévennes, là, les propositions d'essence d'enrichissement, ce sont lesquelles pour cette pinède ?
Alors, il y a différentes essences qui sont testées. Ce qu'on a vu, nous, globalement, parce que bon, on n'a pas vu tous les sites, évidemment, mais sur ceux qu'on a vus, le cèdre revient assez souvent, le pin aussi parfois, mais des feuillus également sont introduits. On a vu du chêne notamment. Qui est souvent mélangé avec le cèdre dans ce qu'on a vu, et puis il y a aussi le Douglas donc en résineux qui est aussi planté assez souvent.
D'accord.
Virginie, tu avais une question ?
Oui, quel chêne ?
Pardon ?
C'est quel chêne qui a été planté ?
Le chêne Cécile.
C'était surtout du chêne Cécile, ouais.
Ok.
Oui, merci.
Et du coup, des rencontres que vous avez pu faire jusqu'à maintenant et des relevés terrain, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement surpris ?
Ce qui nous a surpris, c'est de voir que c'était plutôt des forêts qui étaient plutôt jeunes, qui viennent du Fonds forestier national. Donc avec surtout aussi des forêts très monospécifiques, souvent de pins qui ont été plantées, avec aussi pas mal de châtaigneraies qu'on a vues, qui sont elles plus vieilles que le Fonds national. Et on voit aussi pas mal de plus en plus des dépérissements dans ces forêts. C'est ce qui nous a marqué par rapport à ce qu'on a plus eu l'habitude de voir en deuxième année d'ingénieur en Lorraine, où c'était plus des forêts anciennes et un peu plus diversifiées.
Et pour compléter ce qu'a dit Anouchka, moi j'ai aussi été impressionné par le fait que les forestiers qu'on a rencontrés, je dirais, c'est plutôt des précurseurs et des expérimentateurs, puisqu'ils ont testé pour certains depuis plus de 10 ans la technique des enrichissements. Et lorsqu'on les a rencontrés, ils avaient une réelle volonté de nous transmettre leur retour d'expérience avec ce qui a fonctionné et aussi ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Et surtout nous montrer directement sur le terrain en forêt leur plantation. Et ces gens, ce sont vraiment des passionnés par la forêt, qui cherchent à adapter leur forêt, leur peuplement face au changement climatique en intégrant nouvelles essences pour les diversifier et favoriser ainsi la résilience des peuplements. Il faut savoir que ce travail est fait pour les générations futures puisque les arbres qu'on récolte actuellement sont issus des travaux de nos ancêtres forestiers et la forêt se gère sur le long terme, donc on plante, mais c'est pour les futures générations de forestiers.
J'ai encore une petite question. Je peux ? Virginie, pardon. Je me pose une question, mais je me mets à la place de celui qui conduit une machine dans une forêt qui a été enrichie. Est-ce que, quelque part, ça complique pas un petit peu la récolte des bois, de se retrouver avec plein d'essence et de pouvoir faire un travail plus mécanique et industriel? On va devoir un petit peu davantage cueillir finalement que ramasser le bois ou récolter le bois.
Il va y avoir des petits problèmes, mais souvent les enrichissements, pour la majorité des cas, ils sont aussi réfléchis pour l'accessibilité, mettre le plus près des cloisonnements ou des pistes pour pouvoir bien qu'ils soient repérés par les exploitants. Après, on sait très bien que lors d'exploitation, il va toujours y avoir sûrement une perte au niveau des plants avec un arbre qui tombe dessus. Mais cette perte, on l'a aussi quand on fait de la régénération naturelle. Donc on sait qu'il va y avoir des pertes, mais après, le plus important, c'est vraiment de bien repérer les enrichissements où sont pour bien prévenir l'exploitant et après essayer de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Mais après, c'est aussi, il faut former les exploitants à cette technique parce que pour l'instant, ils ne sont pas du tout formés. Donc, ils ne connaissent pas du tout cette technique. Et après, pour exploiter les bois, il va falloir vraiment bien leur expliquer et les former. Après, ça va prendre du temps, mais je pense que ça peut vraiment fonctionner.
Et pour revenir sur les cloisonnements, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais donc les cloisonnements, c'est on va dire un quadrillage de la forêt qui est réalisé pour et donc lors des exploitations dans ces passages-là, ces passages-là vont servir de route pour les engins forestiers et donc ça permet de limiter le tassement du sol parce qu'il sera fait toujours au même endroit et donc on ne va pas mettre sur ces chemins, je dirais, ces cloisonnements, les plateaux d'enrichissement, mais plutôt entre les cloisonnements. Donc normalement, c'est sûr que c'est pas aussi facile qu'en gestion de forêt régulière, mais normalement, si les exploitants utilisent ces cloisonnements, ça devrait pas être un peu moins compliqué. Ils n'auront pas à slalomer entre les plateaux.
Oui, sans compter qu'on ne parle pas de tous les avantages d'un enrichissement, notamment en diversifiant, en mettant des feuillus, c'est que ces feuillus sont les abris naturels des prédateurs de la plupart des ravageurs, mais j'y reviendrai après là-dessus.
Et vous avez parlé de propriétaires qui mettent en place cette technique depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'ils sont situés ?
Alors le projet, on va dire, enfin la brochure qui sera produite à l'issue du projet est censée garantir l'anonymat des propriétaires, mais les gestionnaires qu'on a qualifiés de précurseurs, on en a vu dans le sud du Tarn, on en a vu en Lozère aussi, sur le Cosméjean. Après, je ne sais pas dans quelle mesure on peut vous donner précisément les coordonnées, mais c'est pas loin d'ici.
Et aussi en Ardèche.
En Ardèche aussi.
C'était pour... ok, la curiosité, merci. Et du coup, oui, vous nous avez parlé que vous allez parcourir donc des forêts un peu plus larges que sur les Cévennes. Et quelles sont vos prochaines visites de terrain alors ?
Alors là, du coup, on a, pour nos 3 semaines, nous, en tant qu'étudiants d'AgroParisTech, sur ce projet, on a terminé les visites de terrain du coup hier. Donc maintenant, il nous reste le traitement de données, mais le projet enrichir, du coup, qui sera continué par notamment le CNPF, lui va se poursuivre et d'autres sites sont localisés un petit peu partout en France, surtout dans le Massif Central, mais aussi dans les autres contextes de moyenne montagne comme le Jura, les Vosges, ou alors les piémonts des Alpes ou des Pyrénées. Et je crois qu'il y a beaucoup de sites qui sont prévus d'être visités dans la Haute-Provence, les Préalpes françaises, autrement dit, vers tout ce qui est le département des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse. Donc il y a pas mal de projets aussi là-bas qui vont être qui vont être mesurés et les entretiens vont être réalisés avec les gestionnaires de ces forêts.
Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup là, pour toutes ces infos sur ce projet, sur l'enrichissement forestier. Pour revenir à votre formation, du coup là vous êtes en dernière année d'école d'ingénieur en gestion forestière, bientôt stage de fin d'études. Et après du coup, est-ce que vous savez déjà quel métier vous souhaitez exercer à l'issue de cette formation ?
Donc à la sortie de l'école, il y a pas mal de gens qui se dirigent vers l'Office national des forêts, mais c'est pas le seul employeur, il y a beaucoup d'autres organismes forestiers, donc des coopératives forestières, des experts forestiers, le Centre national de la propriété forestière, qui est lui plus voué à apporter du conseil aux propriétaires privés. Ensuite il y a des personnes qui se dirigent plus vers la transformation, donc c'est assez large comme possibilité.
Ok, et un message qu'on peut faire passer aussi, c'est que globalement, la filière bois recrute. Donc, il ne faut pas hésiter à tous les niveaux de formation à s'engager, parce que c'est vraiment des métiers passionnants. Virginie, tu veux poser la dernière question pour conclure ?
Mais bien sûr. Alors voilà, on la pose à chacun de nos invités. Et on demande un petit mot forestier. Voilà, ça peut être une anecdote, un souvenir, une pensée, etc. Du coup, Tanguy, Anouchka, Romain, Valentin, est-ce qu'on aurait des petit mot forestier ?
Un petit mot forestier, c'est que pour nous, un forestier, il a toujours sa planche à découper avec et son petit blason de sa région.
Voilà, pour aller sur le terrain et puis pour casse-croûter sous les arbres et puis après se remettre au travail l'après-midi.
Et sinon, moi aussi, j'ai une petite anecdote. En fait, en début de semaine, on est allé sur le Cosmejan pour voir des enrichissements sous pin noir et remesurer les plans. Et puis, quand on est allé, là, on était une équipe de 13 et je pense qu'on a augmenté de façon significative la population vu qu'il n'y a que 15 habitants au kilomètre carré.
Eh bien, écoutez, merci à tous. Avant de passer à la petite chronique d'Emeric, on vous propose une petite pause musicale. Il me semble que Tanguy, tu avais une suggestion à nous faire.
Oui, le chasseur de Michel Delpech, ma chanson préférée.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
Et nous revoici sur Palabre en forêt, sur Radio Barthes 107FM. On va rejoindre Aymeric Thumont, le garde-moniteur du Parc national des Cévennes, pour sa fameuse rubrique « Plantes et animaux des bois ».
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Donc salut Aymeric.
Bonjour à tous.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
De plein de choses, mais je vais vous faire part de petites idées qui me sont venues dans la forêt ce matin.
Ah, tu t'es promené en forêt ce matin ?
Je m'étais promené en forêt. Mais non, on travaillait en forêt.
Ok, ouais, ok,
on
pardon.
On promène pas ici. Et ça me permet un peu de vous donner aussi qu'est-ce qu'on fait comme expertise en forêt. Ce matin, on était appelé sur un diagnostic forestier, c'est-à-dire on doit donner une sorte d'expertise sur une forêt qui va être gérée et on doit donner nos préconisations vis-à-vis de la gestion de cette forêt. C'est une forêt communale. Et on est tombé donc sur des forêts de très monospécifiques, de pins Larissiou okay. ou de pins noirs d'Autriche. Ça dépendait où on était, soit sur calcaire, soit sur silice. Et ça fait un peu écho à ce que nos étudiants ont discuté tout à l'heure. C'est que ces forêts qui sont quasi monospécifiques, elles sont, on s'en aperçoit en traversant ces forêts, très fragiles aux ravageurs. Et on a notamment classique, hein, chaque année, ou presque chaque année, en tout cas régulièrement, tous les 3-4 ans, on a des grosses invasions de chenilles processionnaires. Et à chaque fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut envoyer le prédateur, qui est un bacille, une sorte de bactérie sur les chenilles, mais qui n'est pas spécifique de cette chenille et qui peut poser des problèmes sur les populations naturelles de papillons. Et on a tout de suite, ça fait très longtemps que c'est connu, les solutions, mais l'enrichissement justement dans ces forêts de pins monospécifiques par des essences feuillues permet au bout de quelques années, si on accompagne en posant des nichoirs, d'avoir une forêt plus accueillante pour les prédateurs de ces chenilles que sont principalement les oiseaux. Et après, il y a d'autres prédateurs comme des champignons souterrains, mais les oiseaux ont un impact pas négligeable sur le prédateur des chenilles. Voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur, c'est un des ravageurs, mais sur ce genre de forêts qui sont gérées en régulier, il y a une vraie remise en question des gestionnaires actuels pour se dire, ben, on va peut-être passer en irrégulier. Et on va peut-être réfléchir à comment justement enrichir, comment peut-être créer des îlots de sénescence où on accueillera une biodiversité plus grande, dont les prédateurs de nos ravageurs, et améliorer sur les décennies à venir cette forêt qui était, plus elle est monospécifique, ça c'est des classiques hein, de gestion forestière, plus on prend des risques. C'est un peu comme on met tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, on prend des risques face à un accident qui peut être climatique ou un ravage, et notamment les ravages connus classiques dans les forêts, ce sont les scolytes. Et j'avais envie de faire un petit topo sur les scolytes.
Et juste avant de passer aux scolytes, tu as parlé de la chenille processionnaire du pin. Est-ce qu'elle s'attaque de la même manière aux larissiaux et aux pins noirs ?
Ça s'est vérifié il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Sauveterre, il y avait des pans entiers de pins noirs d'Autriche qui étaient souffreteux, quasiment morts sur pied, pas tous, mais il y avait un gros dépérissement. Ils se sont remis pour certains, mais pas tous. Ils ont vraiment été bien affaiblis par cette attaque. Et puis, ça, les populations chutent brutalement de chenilles processionnaires. Le pin revivote un certain nombre d'années, mais ça peut revenir à tout moment. Les mésanges jouent un bon rôle. Hein, la plupart des oiseaux un peu prédateurs vont jouer un rôle de limité. Mais le vrai prédateur, il est souterrain, j'en avais déjà parlé. C'est un champignon qui s'attaque au en printemps humide, il va s'attaquer au regroupement de chenilles, les processions. Là, elles se regroupent sur des terrains meubles, elles s'enterrent et c'est là qu'elles vont se transformer en papillons. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont très fragiles à l'attaque d'un champignon. Et c'est lui qui fait le plus gros dégât dans les populations de chenilles processionnaires. Donc les printemps humides sont très défavorables à la chenille processionnaire du pin, juste après qu'elle soit sortie de ses cocons. On en avait un petit peu discuté déjà, la chenille processionnaire. Et pour rebondir après sur le souci des scolytes, alors, on a subi des grands feux en France ces dernières années. Et les grands feux sont doublés d'une attaque de scolytes assez monumentale, mais il n'y a pas forcément besoin d'un feu pour avoir une attaque de scolytes. On a dans les grandes forêts d'épicéas menées en régulier en Massif Central, notamment, il y en a beaucoup. On a des attaques de scolytes massives avec des réponses qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Qu'est-ce que c'est le mieux ? Est-ce qu'on coupe tous les arbres qui sont attaqués, on les exporte, on les transforme vite fait en copeaux ? Ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution plus durable et de retrouver un équilibre ? Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plus de 300 espèces différentes de prédateurs de ces scolytes qui sont là dans la nature et qu'il faut mieux connaître en fait pour arriver à maintenir une réponse naturelle à l'agression des scolytes.
Et du coup, dans les Cévennes, est-ce qu'on a certaines espèces de ces 300 espèces ? Est-ce qu'on a des prédateurs ?
Oui, on en a beaucoup, je vais en citer quelques-uns. Et on fait, justement, c'est l'occasion un peu de parler de notre travail d'inventaire des coléoptères du bois mort qu'on fait depuis maintenant presque 10 ans dans les Cévennes. Et on a mis évidemment en évidence un grand nombre de scolytes. Et on s'intéresse même depuis quelques années à une forêt d'épicéas en train de vieillir, qui est sur un îlot de sénescence. Et ça, elle nous permet, en fait, on se rend compte qu'elle accueille un grand nombre de scolytes, et, y compris les ravageurs des scolytes. Et ça, c'est intéressant de s'apercevoir qu'en laissant vieillir une forêt, le bois mort est aussi un accueil important des ravageurs. Ça, c'est... Il faut toujours laisser du bois mort en forêt. Il ne faut pas tout ramasser, tout couper, tout brûler. Voilà, ça c'est un petit raccourci. Donc, parmi ces 300 espèces, il y en a plein. Je ne vais pas tous vous les citer, ce serait beaucoup trop long. Il y en a tout simplement. Le scolyte, c'est un petit... comment le représenter ? C'est un tout petit coléoptère qui fait des dessins très jolis sous les écorces. Pour ceux qui en ont vu, ceux qui se sont baladés en bord de rivière, notamment si vous soulevez des vieux bouts de frêne morts, vous avez un des plus jolis là qui fait de très belles, on dirait une carte de Cassini, pour ceux qui ont déjà vu une carte de Cassini, des cartes topographiques. Et il dessine une galerie centrale et puis ça part sur les côtés comme un immense labyrinthe. Chaque œuf va partir dans son coin, créer sa petite galerie. Tout ça se fait sous écorce et crée un très beau dessin sur le frêne dénudé, évidemment. Donc ça, c'est les scolytes. Ils sont très nombreux, il y en a plusieurs centaines d'espèces en France, mais comme je le disais, il y a au moins tout autant de prédateurs. Donc c'est chez les coléoptères qu'on trouve le plus grand nombre d'espèces de prédateurs, et j'avais envie de vous en citer un parce qu'il est marrant. Et il est marrant parce qu'il est très coloré, ça s'appelle le clairon des fourmis. Le clairon des fourmis, c'est j'ai envie de le décrire comme le serpent corail des scolytes. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble un serpent corail ?
Pas du tout. Non.
Vous n'avez jamais vu un serpent corail ? C'est extrêmement dangereux. Si vous allez dans la jungle, vous voyez un serpent corail, il faut partir. C'est le serpent très dangereux qui est à la fois noir, blanc, noir, rouge, okay. Noir. Il fait des anneaux comme ça. Et disons que le clairon des fourmis, c'est un peu pareil. Il est noir, blanc, noir, rouge, et puis noir. La tête est noire. Je parlais de la queue jusqu'à la tête. Bon, c'est vite décrit. Hein. C'est un truc qui fait environ un centimètre et demi de taille, qui est très poilu. Et qui est un vrai, qu'il soit à l'état larvaire ou qu'il soit à l'état adulte, il court après tous les scolytes et il les grignote. Et ces populations vont répondre assez rapidement à une invasion de scolytes. Mais il y a toujours un temps de latence qui fait qu'il y a quand même des dégâts qui se font. Voilà, ça c'est un. Mais il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Il y a la possibilité.
Pardon, Emily ?
Oui, vas-y.
Et par exemple, si on voulait avoir une action un peu efficace, il faudrait en lâcher vraiment beaucoup
Ça existe, oui. Il y a des gens qui sont payés à cultiver ce genre d'animaux. Ça peut se cultiver en laboratoire. Et il y a une autre espèce dont je n'ai pas le nom en latin, mais c'est un Rhizophagus grandis, qui est un grand classique et qui se nourrit aussi de scolytes et qui est lâché. Et dont la répartition a d'ailleurs naturelle a complètement changé en France, puisque c'était un scolyte qui était connu que plutôt dans l'est de la France et qu'on va relâcher dans toutes les zones où on a des problèmes avec les épicéas et les scolytes. Et donc on cultive et on lâche ce genre d'animaux en forêt. Et ça, plus ou moins assez efficace. On va dire qu'on ne peut pas compter que sur le travail de l'homme, mais ça aide.
Et est-ce qu'il y a un certain type de gestion forestière qui favorise ces coléoptères prédateurs du scolyte?
Oui, alors c'est ce que un peu je disais, hein, c'est que le évidemment tout ce qui augmente la biodiversité en forêt, donc on va parler de la diversification des essences, la diversification des diamètres, la conservation de bois de gros diamètre et la conservation du bois mort dans tous ses états, c'est toutes des mesures qui améliorent l'habitat des prédateurs. On va diversifier les niches écologiques. Et un exemple simple, si vous laissez une chandelle qui abrite assez rapidement des loges de pics, elle va abriter les pics qui sont eux-mêmes des prédateurs de scolytes qui grignotent. Donc tout ça contribue à toutes les échelles à diversifier les habitats des prédateurs. Donc je finis mon petit tour des nombreux, il y en a 300, j'en suis qu'à deux. Il me reste 298. Non, je plaisante. Mais donc, il y a plein de coléoptères. J'en ai cité deux rapidement. Il y a aussi des mouches. Ça, je l'ai appris moi en lisant ce magnifique article sur les ravageurs des scolytes. Il y a plus d'une trentaine d'espèces de mouches dont le but est de repérer les galeries sous les écorces des scolytes. Et elles vont pondre leurs œufs à proximité. Et dès que la larve sort, hop, elle va boulotter les larves des scolytes. Donc il y a une guerre sans merci qui se passe sous les écorces, on ne s'en rend pas compte. Il y a certains acariens aussi qui s'y attaquent. Il y a quelques punaises, j'ai parlé des punaises il n'y a pas longtemps. Et il y a les fameuses guêpes parasitoïdes. Alors ça, tout le monde en a entendu parler parce que depuis l'arrivée du cynips du châtaignier, qui est un parasite de nos bourgeons de châtaignier qui peut causer des dégâts, mais qui actuellement a été à peu près calé, enfin maîtrisé, parce qu'on a introduit une guêpe qui est parasite de cette guêpe. Il est doublement parasite. Il va pondre ses œufs dans les galles qui abritent cette guêpe qui est parasite de notre châtaignier. C'est un peu compliqué. Et il existe donc des guêpes pareilles qui vont pondre dans les galeries qui suivent les scolytes à la trace et qui sont capables de savoir où sont les larves et paf, elles pondent à l'intérieur leurs œufs à proximité ou même carrément à l'intérieur de la larve ou à l'intérieur des adultes. En fait, il y a beaucoup de stratégies différentes parce qu'il y a plus de, je crois, oui c'est ça, 150 espèces au total qui sont capables de et c'est très nombreux, hein, les guêpes, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà, petit tour, mouches, guêpes, évidemment les pics. Quelques oiseaux qui gratouillent comme le grimpeau des jardins que vous connaissez, qui farfouille les écorces. Et un autre qui est sous-estimé, c'est les champignons. Bon, les champignons, ils sont partout et c'est presque le premier compartiment de biodiversité en forêt, puisqu'on dit qu'il y a rien qu'en France, on est à plus de 20 000 espèces de champignons. Et les champignons, ça va de la croûte du camembert à des trucs qui sont invisibles et qui sont tout petits et qui vivent sous les écorces et qui s'occupent de largement limiter l'invasion des scolytes. Donc, qu'est-ce qui améliore la présence des champignons? Je dirais, ouais, plus on a une forêt, comme je disais tout à l'heure, riche en plein de micro-habitats, plus on a des chances d'abriter tous ces champignons, tous ces insectes qui nous aident en fait à limiter les dégâts. Voilà, voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Il y a aussi des trucs invisibles à l'œil nu. Donc les champignons, oui, c'est pas visible. Ceux-là, en plus, sont pas visibles. Et quelques pathogènes, comme les nématodes aussi, que les scolytes ingèrent, qui leur flinguent le système digestif. Bon, bref, il y a une forêt qui fonctionne bien, pour dire les choses de manière très générale, c'est une forêt qui abrite tous les prédateurs de tous les ravageurs. Et si on commence à réduire les compartiments d'une forêt, qu'on n'a que des jeunes bois, eh ben on ne peut pas accueillir tous les logements des prédateurs. Voilà les grandes généralités sur ces bestioles-là.
Et merci beaucoup, Aymeric.
Ben de rien.
Et merci encore une fois à Tanguy, Anouchka, Romain et Valentin d'être venus nous parler de leur projet, de leur formation. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à la prochaine. Salut Virginie.
Je vous le donne si vous voulez ça.
À bientôt.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Latitude 500, longitude 36.